Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alléluia. Nous allons lire dans le psaume 34, psaume 34, et nous allons lire le verset 9. Psaume 34, verset 9. Il est dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Amen. Ça, c'est une bonne chose pour commencer la journée. Parce que vous savez comme moi que ce monde dans lequel nous vivons ne sent pas bon. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on aurait plus de raisons de se plaindre, des raisons de se décourager et des raisons de se lamenter. Ça, c'est ce qu'il y a dans le monde dans lequel nous vivons. Mais la parole de Dieu te dit quelque chose pour toi spécialement, spécifiquement ce matin. Sens et vois combien Dieu est bon. Le Seigneur veut que nous expérimentions, sa bonté. Nous avons besoin de le sentir et nous avons besoin de le voir. Parce que sinon nous serions comme tous les gens de ce monde, sans espoir, sans vision. Mais Dieu veut que tu aies la vision de sa bonté, la vision de sa présence, de sa force. Quand on lit dans la première épître de Pierre également, chapitre 2, première épître de Pierre, chapitre 2, nous allons lire ensemble du verset 1 jusqu'au verset 5. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et quand on parle d'offrir des victimes spirituelles, bien sûr, il s'agit de notre louange, un sacrifice de louange. C'est de cela dont il s'agit. Amen. Seigneur veut que tu sentes et que tu vois combien il est bon. Vous savez, le Seigneur sait comment nous interpeller. Il sait comment toucher notre cœur. Il y a différentes façons dans ce monde, différentes choses qui peuvent nous interpeller, c'est-à-dire nous faire sursauter, attirer notre attention et nous faire réagir d'une manière ou d'une autre. Et généralement, dans ce monde, ce sont les mauvaises choses qui nous ont interpellés. La méchanceté des autres personnes, des choses que nous avons vues, que nous avons entendues et que nous avons vécues. Et du fait que nous avons été autrefois interpellés par les choses de ce monde, cela a conditionné ce que nous sommes, ou du moins plus exactement ce que nous étions. Amen. Mais le Seigneur veut nous interpeller et nous a interpellés par son amour. Il est venu te chercher quand tu ne le cherchais pas. Il est venu quand te sauver alors que tu méritais tout le contraire. Et encore, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle par son amour, par sa bonté. Et quand nous sommes interpellés par le Seigneur, nous n'avons qu'un seul désir, c'est de le rechercher. Parce que l'homme par lui-même ne cherche pas Dieu. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. Dieu est venu au milieu des hommes et c'est lui qui est venu chercher les hommes. Et si d'une façon ou d'une autre, tu as été interpellé et par l'amour du Seigneur et que cela t'a attiré et que tu es venu à lui, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Et jour après jour, Dieu veut faire sentir à son peuple. Il t'a peut-être interpellé une fois, tu es né de nouveau, tu as connu Jésus. Mais il veut t'interpeller encore aujourd'hui pour t'attirer à lui, pour que tu aies soif de lui, pour que tu désires vivre avec lui, marcher avec lui. Parce que vivre dans sa présence, c'est là où nous sommes appelés à vivre. Et d'ailleurs, nous avons été transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son amour, dans le royaume de sa lumière. Et nous faisons partie du royaume de Dieu. Et nous vivons dans le royaume de Dieu. Et nous devons demeurer dans les choses de Dieu. Et pour que nous puissions demeurer dans ces choses, le Seigneur nous fait sentir et nous fait goûter sa bonté pour nous attirer davantage. J'aimerais qu'on puisse lire aussi dans le psaume 42, et ensuite nous lirons dans le psaume 42, verset 2. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ça, c'est une prière de l'Ancien Testament, et on ne va pas lire la suite parce que nous ne sommes pas supposés non plus penser et réagir de cette manière-là quand il dit « Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face ?» Parce que dans l'Ancien Testament, le voile n'était pas déchiré. Amen. L'accès dans la présence de Dieu n'était pas ouvert. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. C'est ouvert et nous n'avons pas à entrer et à sortir. Nous avons juste à vivre là et à demeurer là. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'attitude et le cœur de ceux qui ont écrit ces psaumes, parce qu'il s'agit des fils de Corée. Ils disent « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme soupire après Dieu. » Et la question que j'ai pour toi, c'est « De quoi as-tu soif ? » Quelle est la soif de ton cœur ? Quelle est la soif au point où ça devient une obsession ? Vous savez, il y a différents niveaux de soif. On peut avoir un peu soif et puis ne pas boire, en se disant « je vais boire plus tard ». On peut attendre parce qu'on n'a pas très soif finalement. Je parle des choses naturelles, c'est des choses que vous connaissez. Ça nous arrive d'avoir un peu soif, mais on se dit « bon, je vais attendre ». Et s'il n'y a pas vraiment de l'eau à boire ou la chose que j'ai envie de boire, du thé ou un Fanta ou je ne sais trop quoi. Donc tu as un peu soif, mais ça ne te travaille pas vraiment. Mais parfois, il y a des moments où nous avons tellement soif. J'ai tellement soif que je pourrais boire tout le lac Tanganyika moi seule. Quand nous avons vraiment très très soif. Et cette soif, quand elle est extrême, elle nous pousse. Elle nous pousse à boire. Tu ne peux rien faire d'autre que boire. Tu ne peux penser à rien d'autre qu'au fait que tu as besoin de boire. Et quand nous avons senti, nous avons goûté que Dieu est bon, nous avons soif de lui. Et c'est là où nous allons le chercher. Parce que nous avons goûté quelque chose de bon. Nous avons bu autrefois dans le monde, aux eaux amères de ce monde, aux citernes crevassées de ce monde, ces eaux de ce monde qui n'étanchent pas la soif. Et plus on buvait, plus on se sentait mal quand on buvait dans ce monde. Plus on sentait l'amertume, la colère, l'irritation, la haine. Pourquoi ce monde est-il rempli d'autant de méchanceté, bien sûr, à cause du péché, parce que ce monde ne connaît pas Dieu, mais aussi par le fait qu'ils ont bu et bu et bu et bu et bu encore à des eaux empoisonnées. Mais il y a de l'eau vive que le Seigneur a pour ta vie. Quand tu goûtes et que tu sens qu'il est bon, tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Ça, c'est quelque chose de compréhensible. Quand tu as goûté quelque chose de bon, tu as envie d'en avoir encore. Parce que tu as vu que c'était bon. Et quand tu goûtes quelque chose qui est très bon, tu en veux encore plus. Et ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est de se manifester dans notre vie, non pas parce que nous le méritons, parce que personne ne mérite rien. Comprenons-nous bien, on n'a jamais mérité et on ne méritera jamais quoi que ce soit. Si aujourd'hui tu es dans une position où ton cœur soupire après Dieu, où tu as soif de Dieu, où tu désires Dieu, c'est parce qu'un jour, il est venu à toi et il t'a fait goûter combien il est bon. Et ça n'a rien à voir avec tes mérites. Ça n'a rien à voir avec une chose ou une autre que tu aies pu faire ou ne pas faire. C'est seulement la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Il veut que son peuple soupire après lui. Je vous assure que quand on soupire après quelque chose et qu'on soupire vraiment, vraiment après cette chose ou après cette personne, toute notre vie, toute la motivation de notre vie est orientée vers cette chose ou vers cette personne. Vous savez, en ce moment, il y a les championnats du monde d'athlétisme, n'est-ce pas ? Moi, personnellement, je ne regarde pas la télévision spécialement, mais il y avait des personnes chez moi qui regardaient les championnats du monde d'athlétisme et j'ai regardé un petit peu et j'étais vraiment étonnée de voir l'engagement des sportifs vis-à-vis du sport. Il y avait une fille, je ne sais plus de quelle nationalité d'ailleurs, qui était dans le concours du saut à la perche et elle espérait, enfin elle savait qu'elle pouvait remporter une médaille. Et malheureusement, elle a complètement échoué. Et au moment où elle a échoué, elle s'est mise à pleurer, mais vraiment toutes les larmes de son corps. Pourquoi ? Parce que toute sa vie était, c'est triste vraiment, engagée dans un morceau de bois, c'est-à-dire la perche avec laquelle elle saute. Et elle pleurait à chaudes larmes devant même les caméras, elle n'avait pas honte. Les larmes ruisselaient de son visage. Et quand on écoutait les journalistes aussi, ils parlaient de cette fille, combien c'était triste. Mais ce qu'on voit, c'est que la vie de cette fille, et pas seulement de cette fille, de tous les sportifs, elle est engagée 100% avec le sport. Et c'est vraiment très dommage. Parce que être engagé avec le sport à 100%, bon, quand tu as 20 ans, tu peux encore le faire, mais quand tu arrives à 50 ans, c'est fini. Ça veut dire que quand ils ont 50 ans, leur vie n'a plus aucune valeur, aucun sens, puisque leur vie, c'était dans le sport. Ça ne veut pas dire que le sport, c'est mauvais. Le sport, ça nous permet de rester en bonne santé quand on en fait. N'est-ce pas ? Et ces gens-là sont motivés à 100%. S'ils se lèvent le matin, ils pensent au sport. Ils pensent aux prochaines compétitions. C'est leur système de pensée. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne vivent que pour ça. Si le soir, ils ne vont pas se coucher à minuit et à 1h du matin, c'est parce qu'ils savent qu'ils doivent mener une vie ordonnée et réglée, qu'ils doivent se reposer correctement, se nourrir correctement, prendre peut-être des suppléments de vitamines, aller voir un kinésithérapeute, faire certaines choses, et ils le font avec énergie, ils le font parce qu'ils sont extrêmement motivés, c'est leur vision, c'est le but de leur vie. Et on voit dans ce monde des gens qui sont motivés par différentes choses, parce que c'est en eux, c'est les choses qu'ils veulent, c'est les choses qu'ils aiment, et ils sont motivés pour ces choses. Ils se lèvent le matin en pensant à ces choses, que ça soit le sport, que ça soit une carrière professionnelle ou n'importe quoi d'autre. Et toi, pourquoi es-tu motivé ? Après quoi soupires-tu ? Qu'est-ce qui te fait sortir du lit le matin ? Parce que nous ne sommes pas du monde pour vivre comme les gens du monde. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, ils ne se lèvent pas le matin. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont aucun but, aucune motivation, ils ne soupirent après rien. Ils subissent la vie. Nous ne sommes pas appelés à subir la vie, nous sommes appelés à conquérir dans cette vie. Mais pour pouvoir conquérir dans cette vie, nous devons avoir une motivation. Et cette motivation, quand elle vient de Dieu, elle t'amènera dans des chemins que tu ne connais même pas, auxquels tu n'as même pas pensé. Mon âme soupire après Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face ? Nous, vous et moi, on peut y aller tout le temps. Parce que Jésus a déchiré le voile. La porte est ouverte. Nous n'avons pas à entrer, à sortir. Nous avons juste à y vivre. Et vivre de cette motivation. Ne cherche pas une motivation comme les gens du monde en cherchent. C'est des choses qui ont peu de valeur. Et qui ne dure pas. Ce n'est pas quelque chose de toute une vie. quelque chose de quelques années peut-être, mais pas de toute une vie. Et on voit ces personnes qui disent « Mon âme soupire, mon âme crie, mon âme a soif ». Et pourquoi est-ce qu'ils crient? Pourquoi est-ce qu'ils ont soif? Parce qu'un jour, ils ont expérimenté que Dieu est bon. Lisons également dans le psaume 63. C'est un psaume de David. David qui était dans le désert. Il dit au verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Amen. Ça, c'est ce que dit David. Et c'est pas une jolie prière, quelque chose de très spirituel. Vous savez, il y a parfois des gens, ils font de jolies prières, des choses qui semblent vraiment très spirituelles et très profondes. Mais c'est simplement le fruit de leur réflexion, de leur pensée, parfois de la religion. Mais ce ne sont pas des choses qu'ils vivent, qu'ils n'ont jamais vécues. Ils n'ont jamais vécu ces choses. Ils ne les vivent pas. Mais lorsque David parle ici, il parle de choses qu'il vit, qu'il a vécues, qu'il vit. Il a expérimenté Dieu. Il a goûté la bonté de Dieu. Et il dit, mon âme soupire après toi. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que je cherche. Et quand il dit, ta bonté vaut mieux que la vie, c'était pas juste une prière comme ça. C'était pas juste des mots comme ça. Ta bonté, expérimenter ta bonté, ça vaut mieux que la vie sur cette terre. Ça vaut mieux que tous les trésors que nous pouvons trouver sur cette terre. Avant tout, ta bonté. Parce que ma vie dépend de ta bonté. Sans ta bonté, je n'ai pas envie de vivre. C'est ce qu'il était en train de dire. Il y a des gens qui ont envie de vivre sans la bonté de Dieu parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la bonté de Dieu. Mais quand tu as expérimenté cette bonté, tu n'as pas envie d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'a besoin de rien d'autre et que rien n'a de la valeur. Il ne faut pas non plus être fanatique. Mais Seigneur, je préfère ta bonté. Je ne peux pas vivre, je ne veux pas vivre sans ta bonté. C'est ce qu'il est en train de dire. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et la question aussi qu'on peut se poser, quand tu es dans ton lit, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu quand tu es tout seul dans ta chambre, quand tu es dans ton lit? Et je vous assure que si tu dois y réfléchir, pour la plupart des gens, ce sont soit des choses honteuses, soit des choses mauvaises, soit des choses sans valeur. Et quand tu penses à ces choses honteuses, mauvaises et sans valeur, cela influence ta vie. Cela influence ta vie. Et après, tu ne peux pas dire, j'ai soif de Dieu, mon âme soupire après Dieu. Non, tu as soif des choses auxquelles tu as pensé et qui te mèneront nulle part, qui ne seront ni une bénédiction, ni une construction pour ta vie, mais plutôt de la destruction. Vous savez, nous devons faire attention. Nous devons vraiment être prudents et faire attention. Ce sur quoi nous méditons, ce à quoi nous pensons. Quand tu médites sur de mauvaises choses, quand tu médites sur le mal, sur la haine, la rancune ou d'autres choses, ça va conditionner ta vie. Ça va conditionner tes façons de penser. Ça va conditionner aussi la façon dont tu vas vivre et aussi ta relation avec Dieu. Il y a des chrétiens qui ne sont pas en bonne relation avec Dieu, même s'ils prétendent le contraire, même si pour épater la galerie, ils montrent le contraire. Mais au fond de leur cœur, il n'y a pas grand-chose et parfois il n'y a même rien du tout. Mais quand tu médites sur le Seigneur, tu te conditionnes, tu te motives. Comme le sportif de tout à l'heure dont je parlais, celui qui se motive et qui dit « je vais y arriver ». Alors que réussir à sauter même 10 mètres à la perche, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça n'intéresse pas grand monde. Ça donne quoi de plus? Que tu sautes avec une perche ou que tu ne sautes pas avec une perche ou que tu ne sautes pas du tout, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça là a de constructif? Qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? Rien. Pas grand-chose en tout cas. Amen. Mais être rempli de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, être motivé pour le Seigneur, soupirer après sa bonté, après sa fidélité, après sa connaissance, ça apportera le changement de toute l'humanité. Parce que tu seras quelqu'un rempli de Dieu, qui parle les paroles de Dieu et qui fait les œuvres de Dieu pour que d'autres hommes puissent être également touchés par cette merveilleuse grâce. Amen. Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.